bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kaddo Boudadji.
Bonjour à tous.
Jérémy Crédier.
Et bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bonjour.
Albert Algout.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pachuro et nos invités sont Clémence Poésie et Pierre Delatonchamp. Trop la classe pour fêter l'ouverture de Cannes, trop la classe d'avoir ces deux comédiennes, comédiens et puis réalisateurs aussi. Soyez les bienvenus. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Pour cette première. Pierre, vous lui avez. Qu'est-ce que vous lui avez dit d'ailleurs? Parce que vous, vous êtes déjà venu dans l'émission plusieurs fois. Vous lui avez dit tu verras.
Méfie-toi.
Ça va être un enfer.
En fait, je l'ai fait qu'une fois l'émission.
Non,
et
deux fois.
Non, soyez pas désagréable.
Vous êtes venu pour le film de Téchiné, Nos années folles, et vous êtes venu aussi pour un téléfilm
avec Alexandra Lamy. Ah oui, avec Alexandra
Lamy,
c'est vrai. Ah bah, exact. Alors, c'est ma troisième fois.
Comme quoi, tout n'a pas marqué, tu vois.
Ouais, c'était moi qui présentais l'autre.
Il y a une grosse ressemblance entre Nagui et Stéphane Bern, c'est peut-être ça.
Non, surtout je reviens, donc c'est que ça me plaît, sinon je ne serais pas là. Je lui ai rien dit à Clémence, mais je peux te le dire là maintenant, ça va être super.
Et là, d'un coup, vous l'avez rassuré. Alors, vous êtes, je l'ai dit, brillant acteur, ça on le sait tous les deux avec votre carrière, mais là en particulier avec les talents Adami de Cannes, qui donnent la chance à des comédiennes, des comédiens de pouvoir réaliser leur court-métrage. Alors déjà, la première question, est-ce que vous aviez besoin que l'Adami vous donne cette chance ou est-ce que votre notoriété suffirait à ce que vous fassiez vous-même vos courts-métrages sur votre volonté propre ? Clémence.
Moi de mon côté, en fait, j'ai passé une soirée à me plaindre à un ami à moi que ça mettait vraiment beaucoup de temps de financer un court-métrage parce que j'étais en train d'essayer d'en financer un. Et lui m'a dit, il avait réalisé un court-métrage pour l'Adami il y a 2 ans et il m'a dit, tu devrais appeler l'Adami, ça ira beaucoup plus vite. Et je les ai rencontrés, ils m'ont demandé d'écrire un scénario en 15 jours. Ah. Donc effectivement, et là, je n'avais plus le droit de me plaindre parce que j'étais là.
On peut rappeler ce qu'est l'Adami quand même, parce que tous ceux du métier connaissent et savent à quoi ça sert, surtout quand on est dans le monde du cinéma. Mais je pense pas que nos auditrices, nos auditeurs le sachent.
Pierre.
Merci. C'est un organisme qui œuvre pour la défense des droits des interprètes, que ce soit à l'image, télé ou cinéma, ou la musique, les musiciens, les interprètes,
voilà.
Les interprètes, je crois.
Reverse des droits aux interprètes.
Et les droits de diffusion.
Et puis, de l'autre côté, il faut cotiser aussi, parce qu'il faut pas avoir que
c'est la sécu des acteurs.
Voilà, il faut pas avoir qu'un seul côté. ils récoltent de l'argent de ceux qui bossent pour en redonner un tout petit peu à ceux qui bossent un tout petit peu moins, et inversement. Alors, vous retrouvez donc au milieu de ces 5 courts-métrages que vous avez réalisés, que j'ai dit 5, il y a à vos côtés Sabrina Ouazani, Mélanie Thierry et Charlotte Lebon également. Il y a une figure imposée, l'idée d'abord fête, ça c'est le premier thème, jour de fête.
Oui, parce que c'est les 25 ans des talents Cannes Adami, ils ont voulu que voilà, le maître mot des 5 films soit la fête.
Donc, premier thème imposé, fête.
Jour de fête.
Deuxième figure imposée, avoir 4 personnages principaux.
Ouais, et 2 garçons, 2 filles, de moins de 30 ans, puisqu'ils sont, ils sont dans les talents Cannes Adami, ils s'inscrivent, c'est un petit peu comme, ils postulent. Ah. Et l'Adami les retient en fonction de leur expérience, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient inexpérimentés non plus. Ouais. Il faut qu'ils aient fait des choses.
Mais enfin, il y en a 945.
Voilà, il y en a quand même 945 qui sont pris. Et nous, parmi ces 945, on en choisit 4 chacun qui ne peuvent pas être dans 2 films.
Vous avez un catalogue, comment vous
faites ? Ah oui, d'accord, je ne sais
alors,
pas
y a
ça.
Un
donc
site
c'est une
internet.
Course. Ah ouais.
Oui, c'est un peu la course.
C'est ça, c'est qui
va faire son casting en premier.
Et puis après, on peut les réserver sur internet en disant il est à moi, tu ne peux plus l'avoir.
Et est-ce qu'on sait qui a été réservé en dernier ?
On ne l'aura pas dit.
Comment faire ? Et nous, avec Pierre, on avait la même directrice de casting.
Oui. Yuna de Peretti, à qui on rend hommage.
Qui est merveilleuse.
Comment faire un casting par internet, par photo interposée ? Vous avez quand même des images, j'imagine. Vous avez quand même pu visionner.
On a
ces actrices et ces acteurs.
Le nom, le prénom, l'âge, 2-3 photos et un CV. Et moi, je me suis amusé à aller sur Internet avec, dès qu'une actrice ou un acteur m'intéressait, j'allais sur Internet pour voir une démo ou quelque chose parce qu'il n'y avait pas de vidéo.
Ils les mettent, les démos.
Ah, bah, je les ai pas toutes vues.
Mais il faut avoir le code. Il faut avoir le lien
moi,
et le code.
Code ouais,
vous avez que le lien. Ça va, il vous reste quelques heures avant le début du festival. Pas de panique, c'est du court-métrage.
Le plus dur dans l'histoire, une fois qu'on vous dit, voilà, vous avez le budget, vous courriez après ce budget, le plus dur est d'écrire l'histoire ou c'est ensuite de le filmer, de le réaliser. Quelle a été l'étape la plus...
Et se faire rentrer dans le budget aussi, j'imagine.
Ouais. Clémence?
Mais moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait quoi que ce soit de plus dur que
tout s'est passé
chose.
De...
Non, mais on accepte un exercice. Moi, non, la seule chose que j'ai trouvé compliquée, mais c'était lié à une histoire des histoires de planning, c'était de pas avoir pu prendre de temps de recul sur le film. C'est-à-dire qu'il a fallu que je tourne, je monte et je livre.
Trop rapide, trop rapidement à votre goût. Quoi.
Extrêmement rapidement.
Ouais. Bah avant, ça allait pas assez vite, maintenant ça va.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une actrice blonde, quoi.
On va rappeler quand même le synopsis. C'est l'histoire d'une jeune interne aux urgences psychiatriques à l'hôpital Saint-Louis, Marie, qui déprime.
Alors, elle s'appelle Sophie. Ils n'ont pas changé.
Ah non, mais moi j'avais Marie, d'accord. Ouais. Ok, Sophie, très bien. Sophie, c'est la patiente.
Non, mais en plus, je pense que c'est un mauvais pitch.
Mais racontez-nous, vous. Alors,
oui, parce qu'elle le raconte très bien d'ailleurs. Vas-y, vas-y Clément.
Alors,
on est le soir du Nouvel An.
Alors, jour de fête, donc okay. On est le soir du Nouvel An. Okay. Et on est avec Sophie, qui est donc jeune interne et qui attend de finir sa garde pour pouvoir partir fêter le réveillon et à qui un flic amène une jeune fille un peu perturbée qui s'appelle Marie. Voilà. Enfin, moi, en même temps, j'avais qu'à choisir des noms moins proches.
Le flic s'appelle Jean-Marie.
et cette jeune fille va lui faire part de visions qu'elle a. Va faire part à Sophie de visions qu'elle a, qui vont affecter le reste.
Comme on dit, la patiente va troubler l'interne.
Va troubler le reste des personnages. Du court-métrage, qui sont donc ce flic qui l'a amené et le petit ami de Sophie qui vient la chercher pour l'emmener à un réveillon.
C'est quand même aux urgences qu'on comprend le mot patient. Mais vraiment, en plus. C'est pas ouvert. D'accord.
C'est vrai, surtout sur le ton de la voix sur lequel tu le dis, c'est vrai.
Ça sent le vécu. Ouais. Ça...
Petit peu. Voilà, mais c'est pareil, c'est compliqué d'en raconter un peu plus, parce que comme on a que 15 minutes pour...
Non, mais c'est de jouer aussi bien avec les délires que l'on peut avoir pendant une fête de réveillon que des délires qui peuvent se passer d'un point de vue presque psychiatrique ou psychanalytique.
Non, je pense que c'est plus un... En fait, c'est un film... C'est comme un conte de Nouvel An, ce film. Il y a des contes de Noël et puis il y a des contes de Nouvel An. Et c'est tout un truc sur les moments où on fait le point sur soi.
Où on voit la vie différemment.
Et puis c'est très humblement et de façon très courte, mais peut-être une façon de parler de la vérité des fous aussi.
Ça s'appelle toujours le roi des démons du vent.
Ouais,
ça n'a pas changé. D'accord, le roi du démon.
C'est très canois.
C'est vrai.
D'un côté, âme sœur pour celui de Pierre de la Donchamp. Vous avez choisi un anniversaire. C'est un jeune homme qui fête, qui fait une pool party. Une fête qui, on sent en tout cas, puisque ça s'appelle âme sœur, on sent qu'il y a une espèce de tension affective, voire de jalousie. Entre votre héros et héroïne, ouais, c'est ça.
Parce que je crois que la jalousie aussi, ça se construit. Enfin, on apprend à ne plus l'être. Parce qu'on peut. Enfin, moi, c'est mon cas. J'étais très très jaloux étant jeune, et plus le temps passe, moins je le suis. Mais c'est une. Voilà, c'est un vrai travail. Et je voulais parler de ça quand
on
ce n'est pas encore.
On progresse en amour,
ouais.
Ça va mieux maintenant.
Ça dépend.
Et vous, Pierre, l'étape de l'écriture était plus délicate que celle du tournage, ou au contraire, tout s'est passé d'une manière fluide?
Le tournage était très délicat, mais pour des raisons qui pourraient arriver n'importe quand, c'est qu'on a eu les 4 saisons en 4 jours. Parce que j'ai tourné pile pendant la semaine où il y a le froid sibérien qui est arrivé sur l'ouest de la France, comme partout en France.
C'était à La Boule que vous avez tourné, c'est ça?
C'est à Royan.
Ah, d'accord.
Et en fait,
super maison, en
oui,
tout cas.
Oui. Ça se passe au bord d'une piscine, au bord de la mer.
Une vue de dingue.
En extérieur, ouais. Et c'est censé être un peu l'été. Et deuxième jour de tournage, 5 cm de neige.
Ouch.
Et on a dû s'adapter.
Ouais.
J'ai gardé mon calme grâce à Charlotte Lebon, à qui je rends hommage, parce qu'elle venait de tourner, et je lui ai dit, donne-moi un conseil, et elle m'a dit, embrasse les contraintes.
Oh, c'est joli.
Et j'ai embrassé toutes les contraintes. La neige, c'est super. On peut tourner dans la neige? Non, bon, bah alors on va tourner à l'intérieur. Et puis voilà, on a changé.
Pourtant, il y a quelques plongeons dans la piscine dans votre.
Ils ont eu très froid, mes acteurs.
Votre court-métrage, je veux dire.
Ouais. Je leur rends hommage parce que vraiment.
Ils ont joué le jeu.
Tu leur as donné un
12
peu de
degrés, elle faisait l'eau.
Et est-ce que vous avez fait appel à des amis? Je vois dans votre film, Pierre Deladonchamp, il y a Philippe Rebaud, par exemple, qui fait donc pas partie des jeunes. Des talents à d'amis. Il est confirmé.
Il a bientôt deux fois moins de 30 ans.
C'est ça.
Il compte pour deux.
Il paraît qu'il embrasse bien.
Oui, vachement bien.
Et ça veut dire qu'on fait appel à des copains bénévolement ou comment vous avez façonné les choses?
Oui, alors moi, Philippe, c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'avais énormément besoin de quelqu'un de bon pour ce rôle qui était petit parce que j'avais pas le droit d'avoir un autre rôle principal autre que ces quatre acteurs. Et donc, je lui ai dit, voilà, Philippe, j'ai un petit rôle pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, c'est de l'ordre de la participation, mais je crois qu'il était ravi d'être là et moi, j'étais très honoré.
Alors, ces courts-métrages vont être projetés dans la salle du palais, c'est-à-dire qu'il y a toute une fête qui est organisée, une soirée spéciale qui est organisée dans la grande salle. Alors vous allez monter les marches du palais, chose que vous avez déjà faite, j'imagine, dans votre carrière, Clémence,
oui.
Et Pierre aussi. Mais là, se retrouver avec et la montée des marches et le regard bienveillant ou pas de ses camarades de jeu, ça doit être un exercice assez particulier. Vous projetez déjà, sans mauvais jeu de mots, dans cette soirée?
Oui, okay. C'est terrifiant. Non, mais
il y a une pression.
C'est complètement terrifiant. Mais bon, c'est aussi assez excitant de se dire qu'on y va avec ces quatre comédiens avec lesquels on a travaillé. Entre nous, on est bienveillants.
Oui, mais la salle.
Mais la salle, on ne sait pas.
On se consolera.
On embrassera les.
On pleurera ensemble. On embrassera toutes les contraintes.
Voilà. Mais si ça se trouve, ça va bien se passer.
Si ça se trouve.
On va prendre le risque que ça se passe bien.
Dans votre esprit, pour vous, c'est une première marche. Décidément, tout peut être interprété comme une vanne avec Anne.
Talent de Nagui.
C'est l'irresponsabilité. C'est une première marche pour réaliser un long métrage.
Ce mec, il a un niveau, je ne sais pas si un jour on s'en rendra compte. Il y a eu Guy Lux.
Mais on se trône aussi.
Est-ce que c'est une première marche pour finir par réaliser votre propre long métrage? C'est un souhait, un vœu pieux. Pierre?
Alors moi, j'ai écrit un long métrage d'une adaptation d'une pièce, mais je ne peux pas en parler parce que justement, je ne veux pas déflorer le sujet de mon court métrage. Mmh. Mais j'ai écrit mon court métrage pour commencer un petit peu à me...
Avant d'avoir fait celui de la Dami,
petite bande démo.
Non, ce long métrage, je l'ai écrit avant la Dami et j'ai utilisé le sujet que j'avais en tête dans ce court métrage pour un petit peu déjà me confronter à ça.
Alors donc, vous avez défloré votre sujet, vous l'avez un peu...
Parce qu'on ne sait pas de quoi parle le long métrage.
Voilà, on ne sait ni de quoi parle le long métrage ni le court. Le court, c'est...
Quelle pièce, il a
de plus en plus clair. Mais qui est cette personne, finalement?
Mais parce que tous les comédiens, toutes les comédiennes ne sont pas capables de devenir réalisatrices ou réalisateurs, on est d'accord.
Évidemment.
C'est un autre métier. Non, mais c'est vraiment deux métiers totalement différents.
Ah bah oui.
Et à quel moment vous avez dit... C'est ce que j'ai envie de faire.
Je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si je suis capable de le faire. Moi, j'avais fait un tout petit film pour la troisième scène de l'Opéra de Paris il y a un an et demi, qui avait été un vrai bonheur à faire. Mais c'était un objet un peu particulier. C'était entre le documentaire et autre chose, je ne sais pas quoi. mais en fait, l'énorme plaisir de ça, c'est aussi de découvrir tout. En tant que comédien, on est vraiment sur le tournage. Et puis, c'est tout. Après, ça s'arrête. Et là, moi, je trouve que c'est d'être...
On est responsable de rien à part de son personnage. C'est-à-dire
on est responsable de son personnage. Oui,
mais
c'est un travail en collaboration. Oui, voilà. Et là, en fait, moi, je trouve que c'est de rencontrer à chaque fois des gens dont le métier, c'est de raconter une histoire, mais de façon différente. C'est-à-dire, de mixer le film, par exemple, c'est une façon de raconter l'histoire. Et c'est de se confronter comme ça à toutes ces... À toutes ces étapes de collaboration que moi je trouve absolument...
Que vous ne soupçonniez pas même avant de mettre les mains dans le cambouis.
Mais justement, je trouve j'y prends un plaisir en tout cas assez fou. Et toi?
Ce plaisir, vous l'avez eu, vous aussi?
J'essaie de finir son truc.
Bof, non, énormément. Moi, ça a été une révélation. Alors pour moi, j'espère que les gens qui verront le film... seront touchés par ce que j'ai voulu raconter. Mais oui, c'était une révélation parce que Je trouve que c'est un petit peu comme un, moi je suis un musicien, j'ai mon instrument quand je suis acteur, et là j'ai été chef d'orchestre. Et j'ai dirigé d'autres instruments qui jouent différemment par rapport à moi ce que je fais, donc j'ai pu les pousser dans leur retranchement pour certaines choses, et c'est tout en étant ravi d'être là, ravi d'être avec eux. Et je crois que notre position d'acteur avant d'être réalisateur nous aide beaucoup à comprendre les acteurs qu'on dirige.
Et à pas avoir peur des acteurs. Parce qu'il y a beaucoup de...
Il y a des réalisateurs qui
n'osent pas demander des choses aux acteurs, c'est ça?
Ou en tout cas qui se disent, bon, ce qu'ils me donnent, ça me va, super, on passe à autre chose. Et parfois, nous, on aime en tant qu'acteur être poussé plus loin, changer des choses.
Ah oui, mais vous savez pas si l'acteur ou l'actrice en a sous le pied encore.
C'est pour ça qu'on les choisit en général, c'est parce qu'on sait qu'ils vont être super. Mais effectivement, oui, c'est un risque.
Il y a toujours des limites, de toute façon, dans les demandes. Le fait d'être actrice ou acteur aide à obtenir plus de choses de la part des comédiens que l'on dirige.
Oui, parce que je pense, on sait aussi par quel chemin on passe nous pour arriver à quelque chose. Donc, je trouve que c'est peut-être plus facile de trouver les mots. Je crois, c'est plus facile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on cherche.
C'est vrai.
Avec eux. Que si on n'est pas passé par ça soi-même, je pense.
Et aller à Cannes avec ce court-métrage, c'est aussi l'occasion de prévoir des rendez-vous avec des potentiels producteurs. Est-ce que vous allez être très actif ou vous allez juste laisser le temps?
Il faut qu'on s'en occupe.
Est-ce que c'est quand même la période rêvée pour avoir tout le monde sous la main, pour faire parler de vous et d'essayer de lancer un projet de long-métrage ou d'un autre court-métrage, j'imagine?
Oui, c'est vrai que moi, j'essaie de pas trop me projeter, mais s'il y a des gens qui aiment mon travail, je serais ravi de pouvoir parler avec eux d'une éventuelle suite.
Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez vu chacun le travail de l'autre ou pas du tout?
Pas encore.
Pas encore. Bon, alors donc nous, c'est une chance que nous avons eue de voir votre court-métrage, Pierre. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous soyez réalisateur et capable de l'être, parce que chaque fois vous prenez des gants comme ça en disant je ne sais pas comment mon travail va plaire. Il n'y a aucun doute. C'est non seulement prenant
Il y a une tension. Il y a un court-métrage à chute.
C'est ça que je voulais. À twist même. J'ai envie de dire. Mais j'ai envie de le revoir maintenant.
C'est vrai.
J'ai envie de le revoir en me disant mais à quel moment je me suis fait avoir.
Et c'était un risque, c'était un pari. Quand j'ai demandé conseil à des amis réalisateurs et réalisatrices autour de moi, ils m'ont dit fais gaffe parce que les twists c'est toujours un peu risqué et tout. Ouais. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Il faut prendre des risques quand on fait un court-métrage justement parce que c'est pas un long déjà. Bon, même si je voulais pas gâcher l'argent qu'on me donnait pour faire un film, mais je me suis dit on va essayer. Et puis c'est vrai que moi en tant que spectateur, il y a parfois des courts-métrages qui me saoulent parce que j'ai l'impression de voir un tout petit bout de long-métrage et Et ça me saoule. J'ai envie de voir, même si c'est un court-métrage, c'est un métrage. Et j'ai envie de voir un début, un milieu, une fin. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le mien. Et oui, c'est vrai que je suis assez content quand il est reçu comme ce que vous venez de dire. Ça me fait plaisir.
Exactement. Ces courts-métrages, quand le public pourra-t-il les voir? Parce que là, on parle vraiment d'un milieu cannois, du Festival de Cannes, des marches et d'un milieu très professionnel.
France 2.
Ça passera sur France 2.
Je crois,
Exactement. Et pendant une semaine après la diffusion, ils seront en replay sur le site de...
Le 20 mai, on me dit, sur France 2.
Voilà.
Les courts-métrages passent le 20 mai sur France 2 et j'encourage tout le monde à aller voir parce que c'est un...
Regardez France 2.
Concentré. Non, c'est un concentré de talent. Ça aurait été sur une autre chaîne, je me serais fait plaisir, mais là, je vais le répéter puisque ça fait plaisir. Sur France 2, le 20 mai.
Sur quelle chaîne?
France 2.
Ah, très bien.
Voilà. Merci, France 2.
Sur quelle chaîne?
Je pense que l'obligation de rentrer dans un minutage exigeant, l'obligation d'avoir un budget aussi tenu, l'obligation d'avoir ces thèmes imposés de 4 personnages, 2 garçons, 2 filles, les jours de fête et ainsi de suite. Toutes ces obligations-là vous ont poussé dans des extrêmes pour obtenir la qualité. C'est peut-être ça aussi qui est un exercice, alors que si on vous avait dit vous êtes libre, faites ce que vous voulez pendant un quart d'heure, peut-être que là on aurait eu...
Et puis on a eu 3 jours pour tourner ce film, et c'est peu quand même.
Carrément, je savais pas ça.
Trois jours, 3 jours et demi.
Ça fait partie du cahier des charges aussi.
Tout le monde ait la même chose.
Un jour de tournage, c'est ce qui coûte le plus cher dans un film.
Il y avait un accessoire imposé ou pas comme dans... C'est une vraie question.
un caméo, un guest. Ouais. Non, non. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, d'être présent ou présente dans votre propre court-métrage.
Ah, si, on aurait pu.
Ah, vous auriez pu, d'accord. Clémence Poésie et Pierre de la Donchan sont nos invités. J'espère, mon cher Jean-Jacques Lang, que vous avez compris pourquoi ils étaient nos invités.
Évidemment. Très cher Nagui, à votre question, je répondrai d'une formule dont je ne suis pas peu fier. Je me cite. Les talents Adami ne sont pas des talents Adami. Wow. C'est chier, ça c'est tapé, non? Mais il n'y a pas que ça qui a été bien tapé ce matin. Je veux parler de GNB, le rédacteur-chef de la bande originale, originaire de Coulommiers, dont la tête tient ce matin, vu le face de la bouille d'Igor Bogdanov et vu le profil de la trombine de Grishka. Cela après que GNB subit la grêle de coups de poing rageurs que vous lui avez balancé, Nagui, oui. Quand il vous a annoncé qu'il était invité les formidables Clémence Poésie et Pierre de la Donchan.
Oui.
Mais bougre de chameau, lui avez-vous hurlé dans ses tympans coulants et crevés pour les 25 ans de des talents à l'ami, pourquoi se contenter des deux comédiens sur les cinq qui ont réalisé un court-métrage? Il fallait inviter aussi les trois autres. Mais on m'en maître, ça vous aurait fait beaucoup trop de travail, déjà, espèce de dromadaire borné. C'est tout le contraire. Moi aussi, j'embrasse les contraintes, mais plus il y a d'invités, moins il y a de questions à poser à chacun. Et puis, si tu avais aussi invité les trois autres, Charlotte Lebon, Sabrina Ouzani et Mélanie Thierry, ça aurait permis à Leïla de se lancer dans un vibrant plaidoyer féministe dont elle a le secret et qui, surtout, fait gagner du temps. C'est alors, mon cher Nagui, que je suis arrivé. Et comme en préparant soigneusement la venue de nos invités, j'ai pu voir que le thème à imposer à ces talents à d'amis était le récit filmé d'un jour de fête, je me suis dit, la teuf, la fiesta, la Nuba, la Bambouda, la Java, que des trucs en A, c'est mon dada. Super banco, mon coco. Et me voilà fonçant à la BO. Ça rime tout ça. Ouais, malheureusement, en jetant un coup d'œil au synopsis des films, des cours, comme vous dites, j'ai été dépité, désenchanté.
Ah bon?
Désappointé, dégoûté.
Enfin, dès quelque chose.
Des tas de trucs hantés, vous avez raison. En effet, parmi les jours de fête choisis, ne figure ni la Gay Pride, ni la Technoparade, ni la fête de la musique, et pas une trace de Before ou d'After ou Banana Café. Quelle ingratitude cruelle envers mon cousin Jack qui inventa cette œuvre de folie. Du coup, je remballe mon canon à confetti, tout en vous souhaitant quand même une très bonne émission.
Merci, Jean-Jack. La bande originale, Nagui. Clémence Poésie et Pierre de la Donchan sont à Cannes pour présenter leur court-métrage. Également pour d'autres raisons, une actualité brûlante pour Pierre de la Donchan, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a deux films qui sont présentés dans compétition officielle. Plaire, aimer et courir vite. Et puis également les chatouilles que l'on attend avec impatience parce que c'est vrai, ça fait pratiquement un an qu'on en parle autour de ce micro des chatouilles après que nous ayons adoré la pièce d'Andrea Bescon. On a hâte de découvrir le film. Mais d'abord, vos oreilles ont sifflé.
Et le retour de Christophe Honoré aussi, moi j'ai hâte pour le premier film que tu as cité. Et oui, quand je pense à tous les deux, Clémence et Pierre, je pense à un type de rôle, Pierre, que vous n'avez pas encore eu, mais dans lequel vous excellez déjà, Clémence.
Là, les rosebif.
Vous dites que la victime est française.
Une députée a été signalée comme disparue hier, on pense que c'est elle. Tête est en France et elle est française, donc c'est une enquête française.
Je ne déclencherai pas une guerre aussi peu, détendez-vous.
Il n'a pas été enlevé, coupé en deux et placé exactement au milieu de l'Eurotunnel.
C'est une enquête franco-britannique maintenant.
C'est un extrait de la bande-annonce de Tunnel, cette série en trois saisons.
T'as entendu Clémence ou pas? Qui a dit, oh là là, mais c'est en français que j'entends.
Mais non, mais parce que
c'est une série
l'acteur
anglaise.
Mais l'acteur avec lequel je joue, ça me fait très bizarre de l'entendre parler
en français.
Bah, sauf que c'est pas lui là.
Bah oui, c'est
bah
ça.
Voilà, c'est ça.
Donc trois saisons pour cette série française. Dans laquelle vous jouez une policière française qui se retrouve obligée d'enquêter avec un policier anglais puisque le meurtre a été commis juste entre les deux pays. Ah. Adaptation de la très belle série suédo-danoise Brand, je crois que c'est ça. Là, c'est aussi une autre façon d'installer un personnage, contrairement à la fiction. Trois saisons, est-ce que c'est pas pesant de se dire on est embarqué aussi longtemps dans l'incarnation
d'un
personnage?
ça ne l'est pas parce que dans le cas de Tunnel, en fait, ça se renégocie à chaque saison.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que
on signe
elle
pas.
Elle a gagné beaucoup plus d'argent. C'est ça qu'elle est en train de dire.
La troisième saison, elle s'est régalée.
T'imagines la troisième saison? T'en as fait deux ici, vous voulez que je fasse la troisième.
Personnellement. Elle a acheté le tunnel.
Mais enfin, en tout cas, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on a encore envie? Est-ce qu'on a encore des choses à dire? Oui ou non? Et on a fini de tourner la troisième saison l'année dernière et ce sera la dernière.
Ce sera vraiment la dernière.
Non, au contraire, moi je suis très triste, elle me manque, cette fille. Et, et le fait de me dire que je jouerais plus cette fille-là avec cet acteur-là en face, de temps en temps, j'ai des grands moments de mélancolie.
Oui, parce que déjà, le temps d'un film, beaucoup de comédiens nous disent ici autour de la table que abandonner un personnage au bout de deux mois, c'est délicat. Alors j'imagine que c'est compliqué. Pour vous,
Il y a pire à pire dans la vie.
Oui, j'imagine. Il y a
d'autres. Non, il n'y a pas pire.
C'est des problèmes de riches, mais
il n'y a pas trouvé une place pour se garer, par exemple.
Oui, par exemple, ça c'est un drame. Est-ce que ça peut donner envie, justement, de s'en inspirer pour un personnage que vous pourriez créer, pour un long, un court métrage? Est-ce que elle vit un peu encore avec vous, cette flic?
Elle m'aide.
Tu veux qu'elle pique l'idée de tunnel pour son propre film?
Non, mais je pense que ça
non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que les personnages qu'on a joués, ils restent avec vous. Enfin, moi, de temps en temps, quand je sais pas trop quoi faire sur une scène, par exemple, je demande de l'aide. Et notamment,
à Harry Potter.
Non, mais je sais pas comment dire, je l'ai fait un peu revenir et me chuchoter des trucs à l'oreille. Mais le jouer Jeanne d'Arc en même temps, hein,
tu vois. On comprend mieux pourquoi elle va aux urgences.
Le roi des démons du fond.
Et je crois que le mec qui était dans Casimir avait le même problème.
Et vous, Pierre, vous êtes fan de la série Friends, je crois bien. Est-ce que ça vaut... c'était il y a un petit moment.
Je l'ai été quand j'étais jeune.
Vous l'avez été. Moi, je redécouvre en même temps.
C'est vrai?
Ouais, parce que ça passe sur Netflix.
Modern Family.
Exactement.
Modern Family, c'est ce que j'ai regardé depuis.
Alors, est-ce que ça pourrait, vous aussi, vous tenter une série? J'ai l'impression, en lisant vos interviews, qu'il y a toujours cette envie d'aller vers de la comédie. Donc, une série comique, quelque chose au long cours. Est-ce que ça pourrait être ça, le futur rêvé de Pierre de la Donchamp?
Dans un tunnel.
Avec Clémence Poésie. Voilà. Qui parle aux démons du
ça y est, bah voilà, on a
La série, du coup, c'est encore un autre exercice, j'imagine, pas très éloigné, mais c'est sur cette durée, la façon de façonner un personnage, d'être avec une équipe beaucoup plus longtemps aussi.
Oui, ça m'attire assez, effectivement, ce que vous dites, les deux. Alors, séparément ou ensemble, mais la comédie m'attire énormément. Ouais. Et garder un personnage sur le long terme, ça peut effectivement apporter beaucoup de choses parce qu'on trouve
Son prochain truc, c'est l'ordinateur. Hein,
on trouve de l'épaisseur.
La chèvre, un remake de la chèvre.
Pierre Richard, je suis très
maladroit.
Vous êtes un grand fan de Pierre Richard aussi. Quand vous étiez
grand
enfant.
Fan de Pierre Richard. Ouais. Et certains de mes amis qui me connaissent vraiment me surnomment Pierre Richard. Gaston Lagaffe.
C'est une des seules personnes à qui vous avez demandé un autographe, Pierre Richard.
Ouais.
Et vous avez tous les deux en commun ça, ce désir de comédie, que ce soit en série ou en long métrage. Et vraisemblablement, on ne pense pas forcément à vous, Clémence, pour la comédie. Et comment vous vous l'expliquez? Est-ce que vous avez fait déjà des tentatives
dans Demain, pardon, Hugo Gélin.
Mais moi, j'étais pas drôle.
J'entends,
c'est ta faute.
Nagui essaye de vous aider.
C'était Omar Sy qui était drôle, moi je regardais le truc.
Mais vous étiez le détonateur de l'humour.
Non mais je sais pas pourquoi, j'ai qu'à essayer plus fort, quoi, j'en sais rien. C'est peut-être à moi de faire quelque chose.
On est quand même, c'est le monde à l'envers, si je peux me permettre, parce que les comédiens ont passé des années à dire je ne veux pas faire de série, je ne veux pas être même à la télévision parce que plus personne ne voudra de moi au cinéma. Et vous qui avez des carrières absolument remarquables et internationales, vous dites au contraire, je suis triste de laisser tomber une série où j'ai envie de
mais
vivre.
Mais les séries ont changé aussi quand même.
Elles sont tellement bien foutues. Ouais.
C'est vrai. C'est aussi le fait que les séries
proposent plus des rôles plus intéressants.
Non, mais maintenant, il y a plus de budget pour faire des belles séries que pour faire des films en France. Enfin, on en est là.
Et justement, pour faire vos courts-métrages, est-ce que la série, c'est pas aussi très inspirant parce que chaque épisode doit avoir en effet un début, un milieu, une fin? Est-ce que ça, c'est aussi un modèle qui fait que le court-métrage, ça vous a tenté?
Oui, à cette nuance près que je trouve que parfois l'écueil dans lequel tombe la série, c'est que justement il y a une efficacité permanente qui fait que on retrouve pas par rapport à un long métrage une forme de on accepte que le temps passe plus lentement, on accepte que les choses s'installent. Dans la série, c'est efficace et surtout il y a très peu de séries dont on finit par se souvenir énormément, comme certains films. Mmh. Moi, je peux être marqué par un film qui a duré une heure et demie et m'en souvenir toute ma vie, des séries dont j'ai vu 5-6 saisons, et je vous dirais aujourd'hui, bah, c'était super, mais qu'est-ce que je vous raconterais, je sais et pas.
Ouais, d'accord, ouais, c'est moins intense et à la fois c'est plus efficace.
Il y a des scènes aussi qui sont marquantes, que ce soit au cinéma, dans les séries ou dans les courts-métrages, parce que j'ai mes... Il y a une scène, j'ai hurlé de rire. Je pense qu'elle va dépasser. C'était Meg Ryan dans.
Quand Harry rencontre Sally.
Mais c'est tellement
dans
drôle.
Dans le dîner.
Tellement drôle dans votre court-métrage. C'est Adèle Wim qui fait cette scène de. On peut le dire, non?
C'est une scène d'orgasme. Elle fait l'amour avec elle-même.
Voilà, ouais. C'est une scène d'orgasme. Ouais. Mais.
Ça m'arrive souvent.
Oui, mais il n'y a pas de caméra.
Si. Voici l'humeur de Jérémy Créville.
Regardez-moi tous ces pervers.
Quoi?
Eh ben, finalement, applaudir, c'est un peu fesser sa main. En parlant de fessé et de pervers, il y a beaucoup de gens, dont Leïla, qui fantasment sur moi. Enfin, je veux dire par là que beaucoup de gens fantasment sur la vie des humoristes. Comme je suis égocentrique, je dis moi. Je trouve mon miroir vraiment canon. Alors, à l'inverse d'un élu en campagne, j'aimerais bien rétablir la vérité. Du genre, l'humoriste bosse qu'une heure par jour. Bon, là, c'est pas le bon exemple. Certains pensent qu'on est marrant tout le temps. C'est faux. Et là, c'est le bon exemple. Être humoriste, en gros, c'est parler à des gens qui se foutent de votre gueule. C'est être prof d'allemand en ZEP. Il faut savoir que l'humoriste, il est plus sollicité qu'un accordéoniste en maison de retraite. Vraiment, hein. Toutes les émissions télé ou radio ont leur humoriste maintenant. En 2020, il y en aura même un aux 20h. Hein. Et encore un tsunami en Thaïlande, un Milan catastrophique que nous aborderons tout à l'heure, juste après la chronique désopilante de Vanessa. Wouh ! En soirée, les gens te demandent des sketchs. On ne demande rien en soirée à un gynécologue, je pense. Bref. Pour travailler.
Je
n'ai pas eu
ça. T'as jamais chez Nagil Sam.
Alors, pour travailler son spectacle, l'humoriste teste des vannes dans des endroits improbables, hein. Bar, restaurant, cave, chicha, local poubelle, France Inter.
Tout... C'est dans l'ordre des...
Ouais,
c'est
exactement. Ça. Okay. Tout est réuni pour que tu bides et toi, t'y vas, hein. Tu sautes sur une mine en te tirant une balle rouillée dans l'urètre. Faire de l'humour dans ces endroits, c'est comme manger un plateau de fruits de mer dans un kebab. Au passage, j'ai mal foutu les fruits de mer parce que ça a vraiment pas le goût de fruits. C'est vrai. Après, tu me diras, une salade de fruits, ça n'a pas le goût de salade. Mais bon, je m'égare. Revenons-en au fantasme. Mais calme-toi, Leïla. Le fantasme des groupies qui t'attendent à la sortie. C'est aussi vrai que les seins de Nabila, hein, les groupies à la sortie, il y a un calcul simple à faire, c'est x2. Elles ont soit 2 fois ton âge, soit 2 fois moins. Donc, soit c'est trop tard, soit c'est pas légal, ou soit c'est pour Morin, soit c'est pour Morin. Pour ma part, 1 fois sur 3, il leur manque une dent. Et pas celle du fond. Non, je te jure. Certaines de mes groupies sentent la soupe. Vraiment. Oh non, ouais. C'est quoi votre parfum, Odette? Lié Big. Ah bah voilà. Et puis t'en as qui parlent longtemps. Putain, à côté, les questions de Nagui paraissent courtes. Non. Les gens prennent des selfies aussi. Alors c'est flatteur. Sauf quand il faut refaire la photo. C'est flou? Non, t'es moche. Ah, ok. T'assistes à des engueulades à cause des photos. Non, Christian, mets le flash. Mais t'as ton doigt devant, Christian. Christian, putain, mets lentilles yeux rouges, je suis pas un lapin, Christian. Oh, je te jure. Carte pleine? Oh, tu fais chier, Christian, j'aurais dû épouser ton frère. Épouser, ça ne te dit pas? Ouais, épouser, ça va. Ah, bon. Que deviennent ces selfies, en plus? En fait, c'est juste pour que les gens disent « Regarde, j'ai vu Jérémy Créville. Putain, il est moins bien que sur son affiche. » En tournée, c'est pire. Tu fais 8 heures de train à 2 sièges du gamin qui pleure. Tu peux pas l'éviter. L'enfant qui chiale, hein, c'est comme la prise qui marche pas, le bruit métallique de la poubelle qui claque ou le gars qui téléphone, il y en a un par rame. T'arrives à la salle, il y a une faute d'orthographe sur ton affiche. Hein. Moi, c'est Jérémy avec un G. Je veux bien comprendre qu'on se trompe, mais de là à m'appeler Sylvain, c'est quand même un peu chaud. Les gens pensent qu'en loge, il y a de la coke et des putes. Faux. Moi, dans ma loge, j'ai du coca et des pulls. Le coca n'a plus de bulles parce qu'il est de 2004. Et les pulls, c'est ceux de Bernard, le régisseur municipal. Bernard qui a découvert sa passion à 5 ans devant un interrupteur. Je veux faire ça toute ma vie. Il y a aussi, on les salue, il y a aussi une serviette dans la loge.
Tu vas être servi la prochaine fois. Ouais.
Donc il y a aussi une serviette dans la loge, hein. Elle est beige, avec une tache et elle sent la bière. Vaut mieux faire moins d'1m80, sinon t'es dans le faux plafond. Bernard, lui, il s'en fout, il fait 1m60, il a la tête plate. Dans mon spectacle, il y a 5 effets. Bernard, il m'en a chié 8. Vraiment. Après le spectacle, restaurant avec des meufs canons? Ben non, c'est cassoulé dans un préfabriqué avec Nanar, mon gars. Et ta chambre d'hôtel, c'est la chambre d'amis de Bernard. Et c'est en regardant le lit que tu te dis, tiens, il me rappelle la serviette beige. Oh. Alors, côté fantasme, on repassera même toilette.
Ça sent le vécu. Merci, Jérémy. France Inter, Nagui. La bande originale. Dans quelques instants, nous allons parler de Cannes et des dessous du festival avec Carlos Gomez qui sera notre invité. Mais d'abord, en musique, nous allons évoquer quelques années de vos carrières. La bande originale de La vie de Clémence Poésie, Pierre de la Donchamp. On va commencer par Clémence Poésie qui écoutait en 2002.
De la tectonique.
Respect Leonard Cohen. Vous écoutez cette musique, vous pensez à quoi ou à quel endroit?
Point de suture.
En fait, je suis pas sûre que j'écoutais ça en 2002. Je me rappelle plus ce que j'écoutais en 2002, mais du coup, je me suis dit qu'on allait se mettre Leonard Cohen.
Voilà, petit kiff.
Voilà, je pense.
Qu'est-ce que vous aimez en
J'aime tout. Enfin, je crois que c'est l'auteur qui m'émeut le plus, qui va chercher. Des choses de façon à la fois très délicate et très profonde.
Avec des textes absolument incroyables aussi, parce que.
Et son dernier album.
On pense, ouais. Ouais. Où il dit, voilà. Où il chante même carrément qu'il est prêt à partir, à mourir. Ouais.
Et donc, voilà, s'il y a quelque chose qui se rapproche de la religion, en tout cas, c'est. Pour Leonard Cohen, je veux bien.
Et en 2002, vous, Clémence, c'est votre première apparition sur grand écran dans Bienvenue chez les Roses. Ouais. Une comédie.
Mmh, ouais, mais j'étais pas drôle non plus. Voilà.
C'est votre mojo.
Voilà, c'est une niche, hein, pas de
C'est un bon créneau. Ouais, hein.
Bravo.
Regarde, mais bon, le casting, ça, quand même. À vos côtés, il y a André Wilms, Carole Bouquet, Jean Dujardin, Laurent Dutch. Donc, c'est quand même une première apparition. Sur écran qui a été remarqué parce que c'est un film qui a bien fonctionné aussi.
Ouais, je sais pas, mais ouais. En tout cas, c'était marrant à faire.
Et ce qui m'intéresse, c'est comment vous en êtes arrivée là, parce que vous racontiez qu'enfant, vous rêviez pas du tout d'être comédienne. Votre père est pourtant,
mon père est comédien, et comédien, metteur en compagnie, scène, voilà. Et ma mère est prof de français.
Ouais. Ça aide. Ça aide d'avoir envie de jouer quand même.
Ouais, ça a donné envie de jouer. Non, moi, j'avais plutôt envie de dessiner, je crois. Et puis. J'en suis arrivée là.
Vous avez fait des premiers téléfilms.
Ouais, j'ai appelé un agent à un moment, je crois que un peu par.
À 16 ans, hein.
À 16 ans, un peu par. Parce que j'avais envie d'autre chose. Non, un agent. Une agent française, ouais. Mais elle a un nom anglais, Simpson. Par envie d'ouvrir un peu les choses et de pas juste avoir le lycée. Je sais pas pourquoi. Mais,
voilà. Ouais, parce que la démarche de prendre un agent, c'est quand même pas rien. C'est pas juste se dire je vais faire du théâtre, je vais faire des ateliers,
mettre
des stages.
Un peu mes parents devant le fait accompli, ce que je veux, voilà. Mais c'était pendant tout un moment, c'était quelque chose qui se passait à côté du lycée, quoi.
Ouais, en parallèle.
Et 2 ans après, il ira s'installer en Angleterre, on en reparlera. Quant à vous, Pierre de la Donchamp, vous écoutiez.
Sans trop entrer dans les détails, j'ai attaqué.
Ouais. L'album négatif.
Si je dérive.
Et là, ça s'appelle Little Darling.
Et là, vous pensez à quoi?
Je pense à un moment très très précis de ma vie où tout cet album m'accompagnait de manière un petit peu hystérique. Enfin, c'est-à-dire, je n'arrêtais pas de l'écouter sans arrêt.
Mais cette dépression
pas hystérique, obsessionnelle, pardon.
Oui, d'accord. Cette dépression vous a mené à quoi?
Eh ben, je suis resté acteur, du coup.
Grosse déprime, quoi.
Grâce à cet album, j'ai continué dans ma déprime.
Ah, merci, Violet.
Ça marche bien, je me sens très mal. Je me sens pas bien du tout.
Et on est en 2003 pour vous, Pierre de la Donchamp. Vous avez joué dans un certain nombre de séries télévisées aussi, le début du comédien, Famille d'accueil, Engrenage, oui. Centrale Nuit, RIS, Police Scientifique, des téléfilms aussi, des séries, donc des téléfilms. Comment est-ce que ça a commencé pour vous?
Ça a commencé comme ça, avec après l'école de théâtre, un agent qui a eu confiance en moi, enfin qui a cru en moi.
Et vous avez démarché vous aussi comme Clémence ou pas?
Oui, envoyé des mails à tous les agents de Paris.
C'est vrai.
Tous ceux qui avaient un mail à l'époque, parce qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Et qu'est-ce qu'on leur dit dans ce mail?
On leur dit voici mon CV, voici 2-3 photos, et puis si ça vous intéresse, on peut se rencontrer.
Ouais.
Et personne n'a répondu, sauf un. Mais il en fallait qu'un. Et c'est lui, et j'ai commencé à travailler avec lui. Il se trouve, par la suite ça a été beaucoup plus difficile, mais le tout premier casting que j'ai fait, je l'ai réussi. Et donc c'était assez encourageant, il était content de m'avoir choisi, j'étais content d'avoir été pris. Et c'était Famille d'accueil sur France 3 avec Virginie Lemoine, qui est une femme que j'ai adoré rencontrer. Et voilà, c'est là que moi j'ai fait mes armes. Et c'est très important ce genre de travail pour un acteur, parce que on peut trouver ça pas prestigieux, un petit peu nul, trop populaire, trop ci, trop ça. En même temps, pour nous, c'est une chance parce que on m'aurait dit demain tu fais le premier rôle du prochain Audiard. Quand j'ai commencé ma carrière, je me serais effondré.
Ouais, vous auriez peut-être disparu de la circulation si vous n'aviez pas été à la hauteur. Oui. Aussi, ouais.
Vous étiez le même comédien. Je vois pas où est le problème.
Non, j'étais pas du tout le même comédien. J'avais beaucoup moins confiance en moi. J'avais des auréoles énormes sous chaque bras dès que j'arrivais à un endroit où on parlait de cinéma.
C'est niche aussi ça, le comédien auréole.
Oui, mais pas d'odeur, juste de la sueur.
Très bien.
Mais non, pour revenir sérieux, oui,
ça
c'est.
Ça fait un peu petite d'Audiard en même temps.
Pas d'odeur, c'est de la sueur.
La sueur et des.
Ouais. Non, mais. Je sais pas comment dire, ça m'a appris mon métier. On apprend à l'école sur une scène avec des copains et un prof, mais il y a pas de caméra, on n'est pas payé pour ça, il y a pas de pression. Quand on arrive sur un plateau et que voilà, on a une loge, on est maquillé, genre tout se passe de manière très concrète. Il y a une pression, quoi qu'on fasse, qui est importante.
En 2005, Clémence, évidemment, il y a la rencontre avec Fleur de la Cour et la saga Harry Potter. Et un peu plus tard, en 2009, vous écoutiez Lucio Battisti. Vous êtes parfaitement bilingue, mais trilingue aussi. Italien,
ouais,
vous maîtrisez aussi.
Ouais. En fait, parce que j'habitais en Italie à l'époque. Enfin, je faisais des allers-retours, mais voilà. Et du coup, j'écoutais.
Donc, vous avez vécu en Angleterre, vous avez vécu en Italie.
Alors, je vis en Angleterre maintenant, mais à l'époque d'Harry Potter, j'y allais juste pour travailler.
Ah, je pensais que vous étiez allé vous installer en 2004 en Angleterre.
Non, non, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui a traîné comme
d'accord,
ça.
Mais, okay. C'était que pour le boulot.
Mais c'était pour travailler, mais maintenant je suis entre Paris et l'Angleterre, mais jusqu'à ce que le Brexit me vire. Mais
Mais Thérèse May va se faire jeter avant.
C'est ça. On choisit Clémence Poésie.
À cette époque-là, vous incarnez une fée un peu cassée. Le personnage.
Ah, Pi, oui, bien sûr.
Oui, dans Lulabi de Benoît Philippon avec Forest Whitaker.
Ouais. J'ai un grand souvenir d'avoir dansé la valse sur les pieds de Forest Whitaker. C'était un bon moment.
Non, mais vous avez quand même
un... Pour vous.
Ouais. Oui, ouais. Oh, j'étais légère à l'époque.
Mais toujours. À l'époque.
Non, mais c'est après l'aventure Harry Potter, j'imagine qu'on envisage aussi une carrière différemment. Ou en tout cas, on pense à vous différemment, puisqu'on vous a vu, qu'on va vous solliciter.
Mais enfin, Harry Potter, moi, je fais pas grand chose dans Harry Potter. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est à la fois une énorme visibilité, et puis on vous en parle beaucoup, et puis en même temps, moi, je savais que j'y étais un peu en vacances, quoi. Je regarde, enfin, je venais, je faisais deux, trois petits trucs, mais je regardais aussi beaucoup ce qui se passait. Mais donc, voilà, c'est peut-être un peu plus difficile après de naviguer ça, justement.
Parce qu'en plus, encore une fois, vous n'étiez pas drôle dans le...
Ben non. L'enfer. Non, jamais, quoi.
Quant à vous, Pierre Deladonchamps, vous écoutiez en 2009-2010.
Ah oui. C'est quand j'ai arrêté d'être acteur et que les antidépresseurs ont fait leur effet. Et j'étais heureux. Viva la vida.
C'est plus lumineux. Plus coloré.
Ouais, vous rentrez à Nancy à propos de dépression.
Ouais. J'ai vraiment arrêté d'être acteur à cette époque, c'est vrai.
Ouais, vous dites, je rentre à la maison, j'ai pas d'appel, j'ai rien. Enfin, en tout cas, je veux pas attendre qu'on m'appelle sans cesse. Voilà. Je rentre à Nancy.
En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je passais mon temps à attendre.
Ouais.
Et je me suis dit, mais en fait, là, la vie, elle est en train d'avancer très très vite. Et quand est-ce que je vais me retourner pour me dire que je n'ai rien fait de ma vie?
Mais ça veut dire attendre, quand on est jeune comédien, est-ce qu'on n'essaye pas de former des collectifs? Enfin, je veux dire, vous faisiez quoi, vous, attendant les
rôles?
C'est
pas mon tempérament, je suis plutôt quelqu'un d'assez...
Solo.
Non, c'est pas solo, c'est juste que toutes ces choses-là me font me dire à chaque fois, ça va jamais marcher, ça va être un sacerdoce, ça va être chiant, on va tous...
Mais c'est pas le principe du métier de comédien d'attendre un rôle, et puis même sur un tournage, d'attendre de tourner. Parce que je sais plus quel comédien disait que le plus dur, c'est de trouver une chaise sur un...
Ça, c'est quand les budgets étaient différents.
Le tournage d'un film.
Là, on n'attend plus du tout. Hein. C'est eux qui nous attendent et ils sont déjà devant notre porte en train de nous dire « Bah alors, qu'est-ce que tu fous ?»
Et puis c'est travailler pendant un an, deux ans pour une sortie à 14 heures avec un couperet qui tombe. Ça le fait, ça le fait pas. Enfin, c'est un métier très particulier quand même que le vôtre.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est excitant. parce que si moi je faisais un métier plus conventionnel, je pense que je m'ennuierais très vite et que là je déprimerais vraiment.
Mmh. Et pourtant vous avez pensé abandonner.
J'ai abandonné, ouais. Entre parenthèses, pendant 2 ans, je suis reparti à Nancy et j'ai décidé de changer de vie.
Et vous étiez disant, papa, le plus beau rôle.
Oui, ah bah ça c'est mon plus beau film. D'ailleurs, ouais. C'est pas un film. Et non, je disais à mon agent quand même qui était à Paris, je pars à Nancy, mais il y a le TGV en 1h30. Je suis là, si t'as besoin, je serai là. Et
j'abandonne tout, mais il y a le TGV. Ouais, voilà.
Non, c'est vrai que j'avais quand même ce petit truc en me disant bon, je laisse tomber, j'oublie pas de vivre. Ouais. Je vais plutôt me mettre au vert à Nancy, qui est ma ville d'origine où j'ai mes proches. Et où j'ai ma fille maintenant, effectivement, aussi. Mais Paris, j'en pouvais plus, en fait. Ça faisait 10 ans que j'y vivais, j'avais pas un sou. J'en avais marre d'appeler mes parents pour qu'ils m'aident à payer mon loyer ou acheter à bouffer. C'était vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, bon, on arrête, quoi. On va dépenser l'argent ailleurs que dans un loyer qui coûte très, très cher pour rien faire, en plus, à Paris.
Ouais. Et maintenant, vous vous retrouvez à Cannes, à monter les marches du palais avec...
Blindé d'oseille.
Je ne sais plus quoi faire de mon argent.
Palace majestique, le Carlton, c'est une honte. Justement, Carlos Gomez, on a l'habitude de cette ambiance de festivalier. Bonjour Carlos.
Bonjour Nadine.
Merci.
Bonjour Carlos.
De venir à ce micro. Vous êtes journaliste, chroniqueur cinéma pour Gala, entre autres. Vous avez été rédacteur en chef culture au Journal du Dimanche. Et vous venez de signer l'année dernière, Voir Cannes et survivre, les dessous du Festival de Cannes. Vous avez pratiquement tous fait de, enfin, dans votre
tous
vie
fait,
en tout cas.
Ouais, c'est tous, ça. Attention. Non, pas tous. J'ai eu ma majorité cannoise l'an dernier, ça sera ma 19e édition cette fois-ci, mais non, Cannes, ça se mérite. Je suis journaliste depuis bien plus longtemps, mais avant de pouvoir faire Cannes, il a fallu que je fasse corvée de patates, entre autres.
Alors ce Festival de Cannes, on parlait tout à l'heure des rencontres avec des producteurs, de signatures de contrats, de distribution et de projets. C'est un véritable marché du cinéma ou c'est une loupe sur des films qui vont avoir une notoriété peut-être mondiale?
Ce sont les deux. C'est effectivement un marché. C'est même le marché le plus important du cinéma mondial. Ce qui joue à Cannes pendant 9 jours, c'est ce que dure le marché. Il dure pas la totalité du festival.
C'est une quinzaine, ouais.
C'est colossal. Et effectivement, c'est là qu'il faut être, quoi. Alors parfois, c'est pas dans le cadre du marché qui, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Cannes, c'est en gros le sous-sol du Palais des Festivals. C'est là que
t'as raison de le dire. C'est-à-dire qu'on imagine
que c'est la cave. Pardon, on tutoie les invités.
Pardon, mais c'est parce que Carlos.
Une vieille histoire.
Alors vous voulez qu'on en parle?
Oui, racontez-nous.
Non. Ça s'est bien passé la rupture ou pas?
On se connaît depuis longtemps.
Il n'y a pas eu rupture.
Mais il a raison de préciser qu'on imagine toujours Cannes comme étant shiny, happy people avec le soleil, la journée.
Il y a ceux qui ne voient jamais la lumière.
Les nus par ailleurs sur la plage, des trucs comme ça. Enfin, bon, tout ce qui a fait la réputation de Cannes, ou alors les flashs qui crépitent au moment de la montée des marches. Mais le véritable marché, c'est au sous-sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fenêtre. Non, c'est ça. Il n'y a pas une fenêtre et ce sont des stands comme une foire.
Comme on parle des expos.
C'est la paix de Versailles, quoi.
Ouais. Exactement.
D'accord. Et à la fin, il y a des promos ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un film
des bradages? Oui, je pense qu'il y a...
Non, mais dans les stands, alors moi, pour avoir été un gamin qui a fréquenté Cannes, avec ce côté, je passe par la porte de sortie de secours, t'as pas le droit de rentrer et tu te balades, tu as toujours un t-shirt à attraper, un gadget, des cadeaux qui sont faits par ces promoteurs, parce qu'il y a un côté, foire de commercial, exactement.
Donc, on vend le produit.
Tu prends une affiche, tu espères toujours croiser une vedette.
Mais à côté de ça, il y a encore des deals qui, de manière plus anecdotique, se font au bar des différents palaces que tu as cités tout à l'heure. Pour en avoir parlé avec Edouard Baird il n'y a pas très longtemps, et il se rappelait qu'effectivement, il y a des deals qui se font parfois à des heures indues. La tête pas toujours très fraîche,
lucide.
Mais qu'on valide quand même le lendemain.
Mais c'est clair que l'alcool aide, de toute façon.
Comme à plein de choses dans la vie, c'est ça.
Connu,
oui, toi, tu sais.
C'est surtout les autres. Oui.
Comment sont sélectionnés les films à Cannes? Alors, est-ce que c'est vraiment Thierry Frémaux qui le...
Il n'est pas tout seul. Thierry Frémaux, il a 3 comités, en fait. Tu as ceux qui examinent qui reçoivent les films français, ceux qui reçoivent les films étrangers, et puis il y a un 3e comité maintenant depuis peu qui examine tous les films hors format, et notamment des films qui peuvent être tournés au portable, ça arrive de recevoir des choses dans des formats curieux, ou une clé USB.
On a quand même l'impression que Thierry Frémont est celui qui décide de la présence ou non d'un film à Cannes. Et d'ailleurs, on entend souvent,
Final Cut, oui.
On entend souvent des réalisateurs ou des comédiens remercier alors je ne sais pas quel est son titre, président du festival.
Délégué général. Le directeur artistique, on va dire.
Le président s'est pris. C'est Lescure, le président.
Oui, c'est Lescure, le président.
C'est ça.
Mais oui, le Final Cut, c'est lui qui l'a, mais il sait écouter son staff, quoi. Mmh. Il est capable, s'il doute sur un film, mais si un des types de son équipe insiste en disant si, franchement, là, si on ne prend pas, on passe à côté, il saura l'écouter, bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale d'un film pour être présent au Festival de Cannes ?
Jamais.
On entend toujours des vannes en disant il faut que ce soit des films de 2h30 en Corée, Moldave. Moldave.
Il y en a un qui fait 5h des poussières.
8. Il y en a même un de 8h, je crois, cette année.
Il y a un film kazakh, là.
Non, c'est pas un cliché, c'est une vérité. C'est vrai, mais c'est depuis toujours, depuis que le festival existe, il y a eu des films parfois longs, quoi. Et d'ailleurs, Thierry Frémont, que vous citiez, il dit non, il n'y a pas de films chiants, il y a des films à narration lente. À structure narrative lente.
Est-ce qu'on sait déjà, puisqu'on est c'est aujourd'hui le premier jour de ce festival de Cannes, est-ce qu'on sait déjà quels sont les films à suivre de près ?
Il y en aura deux tous les jours, mais il y a déjà par exemple le film d'ouverture Everybody Knows de Asghar Farhadi, un grand réalisateur iranien qui a tourné en espagnol, donc avec son couple vedette qui est Penélope Cruz, Javier Bardem. Ça, déjà, c'est une véritable attente. Ouais. En plus, le film, bien qu'en ouverture, sera en compétition, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et puis après, il y a le retour de Jean-Luc Godard, parce que Godard, qu'on aime ou pas, c'est un morceau de cinéma. Il arrive avec un livre d'images qui, à mon avis, fera parler. Il fera toujours parler.
Et puis l'histoire de Cannes et de Godard, c'est très particulier aussi entre les deux.
Absolument, puisqu'il y a 50 ans, il était de ceux en tête de cortège qui ont fait en sorte que le festival soit annulé.
Est-ce qu'il y a des règles, des nouvelles règles entre la presse et le Festival de Cannes?
Je vais les découvrir comme mes camarades. Oui, il y en a. C'est-à-dire que jusqu'ici, on découvrait les films à 8h30 dans le grand théâtre Lumière, projection de presse, 8h30. Et donc, 2 heures après, les premières critiques ou buzz tombaient via Twitter ou autre. Et ça ne sera plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque ce soir, ou disons à partir de demain, on commencera à voir les artistes, les équipes de films monteront les marches, eh bien, à 19h30, la presse la découvrira dans une salle annexe à la même heure.
Donc plus de projection le matin à 8h.
Si, il y aura toujours, mais ça sera le film du lendemain. Ce sera le film qui aura déjà monté les marches la veille.
La veille, d'accord.
Tout ça pour éviter...
les bad buzz.
C'est pour éviter parfois les bad buzz. Et puis c'est surtout pour que les équipes de films amenées à monter les marches le fassent en étant vierges de toute première impression. Mm-hmm. Et je pense que ça se respecte, c'est important. Et on continuera de faire nos critiques, on les lira, les gens les liront peut-être que le lendemain, et alors ?
Et est-ce qu'il y a des moyens de faire campagne à Cannes pour remporter un prix ? On le voit aux Oscars,
il y a lobbying.
Ouais, il y a un vrai travail en amont qui est fait.
Non, pas dans le cinéma.
Pas en France, madame.
Non.
Pas en France, madame.
Non, 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 d'abord parce que je pense que vous seriez mal reçu si vous arriviez avec des idées. Votez pour moi. Non, non, mais franchement, mon film, tu l'as aimé.
Non, mais c'est un peu plus subtil.
Non, mais c'est trop court. C'est une période de travail trop courte. Et puis au bout de 3 jours, ils n'en peuvent plus, les jurés. Ouais. Quoi, avoir 3 films par jour.
Carlos Gomez, quel est votre meilleur souvenir de ces 18 années, puisqu'on ne va pas compter sa 19e. Meilleur souvenir de Cannes.
Il y en a plein. Il y en a tous les ans, des bons souvenirs. Mais
bons souvenirs, ce serait... Qu'on peut raconter à la radio.
Qu'on peut raconter à la radio, je ne sais pas. C'est à chaque fois que Pedro Almodovar fait une fête, parce que franchement... C'est les meilleures fêtes de Cannes. C'est Rioja et Pata Negra à volonté. Et puis, on danse jusqu'à plus soif. C'est formidable.
Clémence Poésie, vous avez un souvenir, vous, marquant de Cannes ? Que ce soit d'une fête ou d'une projection, que sais-je ?
La première fois qu'on monte les marches, quand même, ça fait un... Enfin, moi, je tremblais comme une feuille. Vraiment, il y a quand même quelque chose de...
Avec l'angoisse.
Et c'est bizarre, elles sont toutes petites.
C'est qu'un escalier. Hein.
Oui, non, mais c'est ça. On se dit, en fait, c'est tout petit, c'est pas. Mais je sais pas. Enfin, moi, je me rappelle. M'a dit, là, il va falloir arrêter de trembler parce que ça va.
Ça va se voir.
Et avec tous les préparatifs de quelle coiffure, quelle robe, oui. Quelle tenue. Ouais, ouais. C'est ça.
Bah ouais. D'ailleurs, on regrette.
Pierre Deladonchamp, un souvenir vous de Cannes particulier.
Alors, j'en ai plusieurs, mais je dirais le plus marquant, c'est quand l'année dernière, on a fait un hommage à André Deschinets pour toute sa carrière. On a fait une montée, donc Céline Sallette et moi qui étions dans son dernier film, et toutes ces actrices emblématiques ont accompagné de Isabelle Huppert à Catherine Deneuve, en passant par Juliette Binoche et d'autres, parce que voilà, c'était beau de le voir là comme ça, comme un. Et il était très touché par ce moment.
Voir Cannes et survivre, Carlos Gomez le signe chez L'Artilleur, les dessous du festival de Cannes, même si ce livre, voilà, lapsus révélateur, a une petite année de vie, il est toujours d'actualité.
Ah, il sera d'actualité à chaque début de festival, je pense.
Voilà, voilà. Merci Carlos Gomez d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, merci d'être déjà à ce micro, Tanguy.
Oui, c'est incroyable. Bonjour, ça fait une heure qu'il est là.
Oui, je sais, je fais genre. Ah, okay. Nos rêves sont souvent un poil désordonnés, dites-vous.
Oui. Oui, par exemple, moi, cette nuit, j'ai rêvé que vous me disiez que vous me trouviez très drôle. Puis je me suis réveillé, suis venu ici où vous m'avez dit « Bon, tu fais ton mieux, promis. » Les rêves, c'est notre cerveau qui part en vrille, comme celui d'Ariel Dombal, mais à un degré moindre quand même. Seulement des scientifiques ont enfin trouvé un moyen de contrôler nos rêves. Vous allez voir.
Ah, je croyais contrôler Ariel Dombal. Très bien.
Ça, c'est impossible.
Ça sera après les infos de midi. Clémence Poésie et Pierre Deladonchamp sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadouroudali, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Albert Algou, Daniel Morin, et nos invités Clémence Poésie et Pierre Deladonchamp. Ils signent leur premier court-métrage et ils auront une salle de professionnels et une salle d'amoureux du cinéma, parce que on a beau dire pique-pan de ce festival de Cannes, ça reste quand même des grands professionnels qui sont réunis et des grands noms aussi, que ce soit côté acteur, actrice ou réalisateur ou producteur, ce qui rajoute, j'imagine, une pression supplémentaire pour l'accueil qui sera réservé à ces talents Adami à Cannes. 20 jeunes comédiennes comédiens sont mis en lumière par lors de 5 courts-métrages réalisés par 5 comédiennes-comédiens reconnus comme vous deux, évidemment, mais en plus Charlotte Lebon, Sabrina Ouazani, Mélanie Thierry. Vous êtes le seul homme, Pierre, au milieu de ces 4 ravissantes actrices.
Pour mon plus grand plaisir, je suis bien entouré.
Le festival commence aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine, le 15 mai, donc à 15h, dans le cadre du 71e Festival de Cannes. En présence, vous parliez de cette montée des marches avec votre troupe, j'ai envie de dire, parce que c'est une équipe. Et tout ça pour fêter les 25 ans des talents Adami. Le pitch étant, il faut qu'il y ait 4 personnages, 2 garçons, 2 filles, que ça se passe un jour de fête, d'où l'idée du nouvel an pour vous. Avec cette situation entre une jeune patiente, une interne, un policier et le mari de l'interne.
Ouais,
le fiancé de l'interne.
Compagnon.
Et cette interne va avoir, avec la rencontre qu'elle va avoir avec la patiente, d'une autre vision peut-être de sa vie ou une autre interprétation de ce qu'elle va vivre pendant le nouvel an avec son mec.
Oui, je pense que ça va lui ouvrir les yeux, en tout cas, sur ce qui se passe dans sa vie à elle.
Ce que vous avez voulu faire passer, il y a des valeurs, un message, une morale dans votre court-métrage, Clémence ?
C'est ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est cette histoire de vérité des fous, quoi. Et puis mine de rien, c'est aussi une façon de parler d'une façon de faire son métier. Je pense que quand on est jeune interne et on fait des gardes très longues et que on est coincé par des histoires de moyens, de tout ça, on peut parfois en perdre un tout petit peu le sens de ce qu'on fait. Et voilà, je trouvais ça intéressant que cette passion vienne aussi questionner ça.
De votre côté, Pierre Deladonchamp, vous avez choisi un anniversaire. C'est un jeune homme qui fête, qui fait une pool party, mais la météo n'est pas spécialement au rendez-vous.
Non,
mais
c'est même dit
dans le court-métrage.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça passe complètement.
Avec le temps qu'il fait, la comédienne blonde,
Sarah Megan Alouche.
Voilà, Sarah Megan Alouche, qui s'ennuie, elle, pendant cette soirée, qui s'ennuie profondément, et qui, on a le sentiment qu'elle est en une espèce de concurrence avec Adèle
Vim.
D'accord, ouais. D'accord, le S ne se prononce pas.
Alors, en tout cas, c'est vrai que ce sujet me plaisait beaucoup à aborder, vu que voilà, je n'ai plus l'âge de mes acteurs, de mes personnages.
Oh, choupinou, t'es encore très jeune, tu sais.
Je sais, mais quand même, je trouve qu'il y a une nostalgie aussi de ces années-là où on n'est pas encore complètement un adulte et qu'on n'est déjà plus un adolescent. Et j'avais envie de parler de ça, des rapports humains, notamment amoureux, la séduction, le sexe aussi, ouais. Et la jalousie.
Sarah Megan Alouche, Gauthier Batou, Anthony Sonigo et Adèle Vim. Et Adèle Vim qui fait aussi de la musique. Comment l'une des comédiennes principales de votre court-métrage vous a convaincu de prendre sa musique pour en faire la BO ?
C'est le contraire, c'est moi qui lui ai demandé de le faire.
Bah oui, non, mais comment vous saviez alors qu'elle était musicienne ?
Parce qu'elle me l'a dit, et puis parce que j'ai beaucoup parlé avec elle. Il se trouve que Adèle Vim joue aussi avec moi dans le film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. On s'est rencontrés sur le tournage, bien qu'on ait aucune scène ensemble, et je ne sais pas pourquoi, et je trouve ça bien de ne pas savoir pourquoi. Elle m'a inspiré, j'ai même écrit mon court-métrage en pensant à elle pour ce personnage, c'est-à-dire que j'avais envie de tourner avec elle et de la diriger. Et quand elle m'a dit que au-delà de ça, elle faisait de la musique très bien, je trouve, elle m'a fait écouter 2-3 choses et j'ai dit j'aimerais bien que tu fasses la musique de mon court-métrage.
Très bien. Clémence Poésie et Pierre Deladonchamp qui vont réaliser, qui réalisent leur premier court-métrage et ça passera au Festival de Cannes et vous pourrez le voir sur France 2 le 20 mai. voici Tanguy Pastureau.
Ah, bah oui, qui embrasse très bien.
Tous nous rêvons la nuit.
Oui, mais la plupart du temps, nos rêves sont inutiles. Ainsi, moi, je rêve souvent de vous, Nagui. Vous êtes nu avec juste une paire de baskets. Et me dites, mon bichon, si tu veux revenir la saison prochaine, va falloir y passer. Je vais te croquer comme un mandalire, un petit genou de 18 piges. Et dans mon rêve, je fuis terrifié jusqu'à Europe 1. Où ils m'embauchent parce qu'ils ont déjà tout tenté et n'en sont plus à un pari impossible près. Là, si Julien Lepers se présente avec Grisoli et Vincent Lagaffe pour la matinale, ils les signent. Alors vous, Nagui, rêvez aussi, mais vous vous en foutez. Parce que votre vie et mieux que vos rêves. En télé, vous cartonnez. Quand vous allez à France 2, Laurent Delahousse en pleurs s'accroche à votre jambe. Après, vous avez du jojoba partout sur le jean. En criant, mais quel est ton secret ? En radio, vous triomphez, Stéphane Bern sur RTL, sans votre souffle sur sa nuque. Ce qui ne signifie pas que vous faites ensemble des soirées Valmont, Marquise de Merteuil, perruque poudrée et capote en boyau de porc, mais juste que vous le talonnez dans les sondages. Quant à Jérémy Crédville, il rêve d'un gel fixant lui permettant d'enfin dompter ses cheveux sur son crâne, la personne qu'il voit le plus n'étant pas son épouse Jacqueline, mais Jean-René, hein, le coiffeur de son quartier avec qui il passe 400 heures par mois pour essayer de faire un truc. Leur mariage est prévu pour juin et ils ont trouvé une portoricaine en Floride qui prend seulement 4000 boules pour une GPA. Bon, pour ce prix-là, le bébé sera divisé en deux. Jérémy et Jean-René auront la tête et le tronc. Le reste sera vendu 3000$ à un élevage de pitbull. Bref, nos rêves sont la plupart du temps totalement cons. Soit on se retrouve trempé parce qu'on rêve de créatures sexy dont le nom commence par Casta, Christophe Castaner, donc on jouit, Laetitia Casta tout court, donc on jouit, ou Jean-Pierre Castaldi, donc on jouit, et ensuite on se pose des questions sur soi-même et ses désirs. Soit c'est tellement absurde qu'en se réveillant, on se demande pourquoi Florent Pagny fume de la weed, alors qu'il suffit de pioncer un coup pour voir la tête de Mamie Ghislaine sur le corps d'une grosse mythe bouffant les slips de Papy Alphonse, ou l'Elysée avec Macron qui rend les clés si on est Laurent Wauquiez. Des scientifiques du MIT, University of Technology of Massachusetts, ont donc créé un gant muni de capteurs, hein, comme celui que la femme d'Olivier de Kersauzon met pour toucher son mari quand il revient de 7 jours en mer, mais muni de capteurs. Le gant repère le moment où vos muscles sont détendus, si vous êtes doc gynéco, c'est tout le temps, ce qui veut dire que vous êtes en état hypnagogique.
Mais cet état, c'est la phase de transition entre le stade éveillé et le sommeil, c'est ça ?
Oui, Nagui, pour un mec de télé, vous avez un sacré niveau.
Non, je sais bien.
Vous parlez de la même chose à Sophie d'avant, à un petit drapeau blanc lui sort de l'oreille droite. C'est son cerveau qui capitule. C'est à ce moment-là qu'on rêve. Hein. Ensuite, on dort profondément, ce qui fait que niveau physique, on ressemble à Gérard Collomb quand il a la patate. Le gant, donc, repère l'état hypnagogique et se met à parler. Alors, c'est le seul gant à faire ça. Quand vous êtes chez les flics, jamais le gant qui a enfilé le type à la lampe de poche dans la bouche ne vous dit « Salut, ça va bien ou bien ?» Maintenant, il va falloir écarter les fesses. Le gant du MIT dit, par exemple, « Souviens-toi de penser au lapin. » Et comme vous l'entendez dans un demi-sommeil, tel Tariq Ramadan dans sa cellule si la télé diffuse une émission sur l'abstinence, vous intégrez l'élément, ici le lapin, dans votre rêve. Au réveil, on vous propose un café, vous répondez « Écoute, je vais plutôt prendre un jus de carotte. Hein, » Ensuite, vous faites de l'amour 7 fois dans la journée en fronçant le nez. Bref, vous êtes habité par le lapin, vous êtes un terrier. Et là où ce gant qui parle est une révolution, hein, plus que par exemple une chaussette qui tousse, c'est que cette phase d'état hypnagogique est celle de la créativité. Hein, Thomas Edison, par exemple, qui a inventé l'ampoule électrique, dont seuls les gens à Koh-Lanta ne connaissent pas l'existence, ils se baladent avec des torches et tous les 7 jours, il y a un malade en chemise à poche qui en éteint une. Edison, donc, tenait dans sa main des boules, hein, comme Patrick Bosseau à Marseille, s'endormait et quand elle tombait, parce que ses muscles se détendaient, ça le réveillait. Et là, en 4 minutes, il créait le cinéma, l'électricité, la coiffure de Paul Pogba et l'humour d'Inter, tellement ça bouillonnait. C'est une sorte de sieste express, comme le font les navigateurs qui traversent l'océan, cette vaste étendue de plastique dans laquelle crèvent 4 dauphins, l'estomac rempli de bouteilles vides de cristalline, pensant dans un dernier sursaut à l'atroce rectus de Giroud lorsqu'il boit de l'eau de source contre rémunération. Ce qui fait que si au lieu de nous parler de lapin, par exemple, le gant demain se met à nous réciter la table des 63, 63 x 226, 63 x 24 1512, pendant l'état hypnagogique, au réveil, on peut appeler Cédric Villani, le mathématicien de l'AREM sapé comme Victor Hugo un dimanche d'octobre, pour lui dire « Mon pote, rendez-vous devant le local de la prépa scientifique, je te prends sans calculer de Casio à 18h24 racine carrée de 37, puissance 48. Hein, moi, j'ai ce gant, la fringue me dit « Pense à Macron », je me réveille, en 4 minutes, j'ai ma chronique sur le gamin, et je peux passer le reste de la journée à regarder les mouches voler. Hein, quand on pense que les Pink Floyd étaient contraints de s'enfiler des omelettes aux champis par le nez pour pondre une chanson sur des gnomes poilus, ça vaut le coup de tester l'état hypnagogique. Au moins, quand on reste coincé, au pire, on dort. Alors moi, j'y retourne. Je peux pondre 12 chroniques pour demain minimum.
On laisse ton corps. Merci.
Clémence Foisy, Pierre de la Donchamp, jeune réalisatrice et jeune réalisateur, c'est un statut dont vous rêviez, Clémence Foisy. Est-ce que tout le cheminement, tout le travail de l'écriture jusqu'au montage, mixage dont vous parliez tout à l'heure, la confo et tous les réglages à faire, c'est un métier que vous découvrez, vous soupçonniez qu'il y ait autant de travail pour réaliser un...
Ouais, je m'en doutais un petit peu quand même, mais par contre, c'est tout à fait passionnant à faire, non?
Et votre sœur, Clémence, est metteuse en scène. Oui. Elle est très reconnue. Oui. Elle a monté beaucoup de très très belles choses, notamment au français, à la Comédie Française.
Oui.
Est-ce qu'elle a porté un regard
Je ne lui ai pas encore montré.
Ah, c'est vrai, vous
mes parents l'ont vu, mais elle ne l'a pas vu.
D'accord.
Quoi? Tes parents ont vu le film et pas Nagui?
Quoi? Quoi? Faut qu'on parle tous les deux. Hein.
Mais ils pardonnent des choses.
Et vous, Pierre? Et vous, moi aussi, je pense que je n'ai pas assez. Et vous, Pierre, de découvrir donc ce métier, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans le travail de création du réalisateur que vous êtes?
Le plus marquant, c'est quand je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit comme ça dans un coin tout seul était en train de vivre devant moi, devant la caméra, et que je trouvais ça sous la neige aussi, dans l'eau, dans une chambre, très peu habillée, voire pas du tout. Ouais, ça m'a ému. Je me suis dit, ah, c'est incroyable. En fait, voilà ce que j'ai écrit là, c'est en train de résonner devant tout le monde, et il y a de l'argent qui a été mis pour raconter mon histoire.
Puisque vous en parlez, les scènes de nudité ont été délicates, comme c'est souvent le cas. On
quand
le sait,
il fait froid.
Non, mais délicates à tourner par pudeur, par gêne. Vous avez vous-même déjà tourné nu, de demander à des comédiens de se mettre nu devant votre caméra, c'était gênant.
J'avoue que si je l'avais pas fait moi-même, j'aurais eu plus de gêne. Mais comme je l'ai déjà fait, je leur ai dit, écoute, c'est faisable, je l'ai fait. Tu le fais ou tu le fais pas, mais moi j'en ai besoin pour mon film. Et j'en avais vraiment besoin. Il se trouve que moi, la nudité ne m'intéresse pas si c'est juste pour montrer des belles formes. J'en avais besoin pour raconter quelque chose. Et je crois que ça sert mon histoire.
Totalement, ouais.
Et puis, la nudité, pour moi, c'est aussi un costume. C'est-à-dire qu'on peut se protéger derrière un costume de la tête aux pieds. On peut aussi, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais acteur, la nudité est un autre costume. Même si on se dit, bon, tout le monde voit mes formes, tout le monde voit mes défauts, mais aussi mes qualités, parfois.
Ça va, Pierre Deladonchamp, tranquille.
On vous invite
à revoir L'Inconnu du Lac,
Guirondi. Je suis désolé.
Qui est le fait d'arme de Pierre Deladonchamp.
T'appelles ça carrément une arme, toi, maintenant.
Le fait d'arme. Non, la matière.
Qu'on appelle le fusil d'assaut.
J'ai fait que de répéter, il faisait froid sur le tournage, il faisait froid.
Clémence Poésie et Pierre Deladonchamp sont nos invités, bravo. Ça nous fait plaisir. Daniel Morin est là, c'est autre chose. Ouais. Quel maquillage, Daniel.
Ah, vous avez vu ça, incroyable. Et aujourd'hui, c'est magique. Oui, c'est le début du Festival de Cannes. Et qui de mieux placé pour nous parler du Festival de Cannes que l'incroyable.
Merci mon Dani. Ah. C'est gentil, mais surtout hyper naturel de penser à moi quand il s'agit... culture.
C'est-à-dire, cher Jean-Jacques Lang, que je pensais plutôt à Guilletto Dicino, Christine Masson, Laurent Delmas, nos spécialistes cinéma.
Ils sont méga sympas, c'est vrai, mais sans vouloir leur manquer de respect, tu te serais fait chier avec eux. Ah. Et puis merde, c'est quand même moi, avec mon cousin, qui a inventé la fête du cinéma en 1985, la grande teuf du Cinoche. La fête du cinéma qui est un succès énorme, comme l'est d'ailleurs la fête de la musique que j'ai aussi inventée. Dommage que je n'ai pas eu le temps, j'aurais bien inventé aussi, de façon tout aussi géniale, la fête de la modestie. Bref, même si c'est passionnant, on n'est pas là pour parler de moi et de mon génie.
On aurait pu inviter Pierre Lescure, qui est le président du festival.
Mais il est déjà sur place, ce cabot de Lescure. Je le connais. À l'heure qu'il est, il est probablement défoncé, à moitié à poil sur la croisette, avec une paille dans chaque narine, une bouteille de chambre dans la poche droite et du poppers dans la poche kangourou.
Vous croyez ?
Mais enfin, c'est l'ancien patron de Canal de la belle époque. Et à cette époque-là, à Canal, il y avait plus de schnouf qu'à Medellin.
Waouh, carrément.
En plus, il connaît bien Nagui. Et qui dit Nagui, dit taratata. Et qui dit taratata, dit musique. Et qui dit musique, dit chanteur. Et qui dit chanteur, dit émotion. Et qui dit émotion, dit mal de vivre. Et qui dit mal de vivre, dit Mylène Farmer. Et qui dit Mylène Farmer, dit dépression nerveuse. Et qui dit dépression nerveuse, dit angoisse. Et qui dit angoisse, dit Laurent Wauquiez. Et qui dit Laurent Wauquiez dit drogue dure.
Eh ben. Comment est-ce qu'on peut partir de Pierre Lescure et arriver jusqu'à Laurent Wauquiez?
Je ne sais pas, mais c'est pas le problème. Non, l'important, c'est que je sois là pour évoquer Cannes. Cette année, le festival sera sous le signe de la teuf. La teuf dans les salles de projection, la teuf dans les soirées, la teuf sur la plage, la teuf dans les chambres d'hôtel, la teuf.
Oui, ok, la teuf, mais en ce qui concerne la compétition, Jean-Jacques.
Ah ben, il va y avoir plein de films, beaucoup d'acteurs et une chier d'actrices. Ça va être génial.
Pensez quoi de Kate Blanchett?
Bien sûr que j'adore Kate Bichette.
Non, Kate Blanchett, pas
oui,
Bichette.
Oui, peut-être, c'est un détail. Kate Blanchett, actrice autrichienne merveilleuse.
Et australienne.
Oui, peu importe, Kate, inoubliable dans tant de chefs-d'œuvre. Autant dans Porte-le-Vent, La Grande Vadrouille, Bienvenue chez les Ch'tis.
Elle n'a joué dans aucun de ses films.
Mais là n'est pas l'important, Danielito. Kate est une diva qui nous a quittés bien trop tôt, mais qui, comme toutes les stars, est éternelle.
Elle n'est pas morte, Jean-Jacques, elle est présidente du jury.
Oh, mais ben, tant mieux, cette disparition m'avait fait beaucoup de peine. Et je suis ravi de cette résurrection.
D'accord, mais sinon, Robert Guédiguian dans le jury, c'est bien, c'est hyper
français. Ah oui, je sais. Mais c'est ça qui est en kikinant, mon Danichou. Oui, les films populos avec du chômage, du mauvais temps, des maladies moyenâgeuses et l'accent débile du Sud-Est, c'est très 20e siècle. C'est aujourd'hui totalement has-been, en plus d'être chiant à crever.
Sinon, vous pensez quoi des films un peu exotiques, du style Aïka, le film kazakh de Sergueï Dzsordzhevskoï?
Ah non, mais ça...
De qui
Sergueï Dzsordzhevskoï.
Mais non, ça c'est la tannée ultime. Ça, c'est l'esprit gaucho-lescure dans toute sa splendeur. C'est-à-dire dans tout ce qu'il a de plus mauvais. Et vas-y que je te propose des films imbitables sur des sujets qui n'intéressent personne, avec des comédiens à qui on a envie de jeter des cailloux. Non, le cinéma du tiers-monde, ça fait yesh, mon Dani Nounet.
Sinon, vous pensez quoi des prix périphériques du style Talent Adami qui offre l'opportunité à une vingtaine de comédiens d'être mis en lumière par la diffusion de 5 courts-métrages?
Honnêtement, mon Dani, je pense que c'est de la merde. Ça ne sert absolument à rien. C'est de l'esbrouf. Cannes, c'est les stars. Et puis c'est tout. On n'est pas là pour voir des bouts de films tournés avec un vieux Nokia tout pourrave. Cannes, tu vois, c'est du fauchon. Et là, mon Dani, tu me vends du Franprix.
Et Jean-Jacques, nos invités sont là pour présenter Talent Adami.
Ah, oh mais quelle formidable initiative. Talent Adami, c'est le cinéma de demain, c'est le Cannes d'après-demain, et c'est le rêve de toujours. Non, pour moi, Talent Adami est 100% dans l'ADN du Festival de Cannes.
Merci pour cette analyse, Jean-Jacques.
Mais de rien, vous savez, vous pouvez toujours compter sur moi. Je ne suis spécialiste en rien, mais j'ai un avis sur tout.
Oh, comme beaucoup, mon cher Gigi, comme beaucoup. Allez, à demain.
Merci.
Avec Nadine.
Au-delà de ce court-métrage qui sera projeté donc la semaine prochaine, mardi 15 mai à Cannes, Clémence Poésie, vous faites partie donc de la troisième saison de Tunnel qui sera diffusée en juin sur Canal. Il y a Genius Picasso, également produit par Ron Howard, diffusé depuis le 24 avril sur National Geographic, dont vous faites partie. Et puis il y a Final Portrait, voilà, j'ai pas dans quel sens il fallait le prononcer, qui sortira le 6 juin, dans lequel vous êtes.
Alors moi je joue Caroline, c'est un film sur Giacometti, réalisé par Stanley Tucci avec Jeffrey Rush et Armie Hammer. Et moi je joue Caroline qui a été une muse de Giacometti. Voilà. Et il y a Sylvie Testu, pardon.
Et il y a 7 minutes, c'est un film de Michel Placido qui sortira le 13 juin. Beaucoup de films qui arrivent en main.
Ah, 7 minutes. Italien, ouais.
D'accord, dans lequel vous jouez en italien
Oui, en italien avec un accent albanais. Alors c'est...
Oh la vache.
Et là, c'est
tourné à Melun.
Quel est le thème?
Voyons, vous êtes drôle.
Peut-être. J'ai pas vu le film, effectivement. Il y a peut-être une chance. 7 minutes, c'est l'adaptation d'une pièce. Ça se passe dans une usine où 11, un comité d'ouvrières doit décider si oui ou non elles acceptent les conditions qui sont posées au rachat de l'usine.
De la société.
Et ça se passe en temps réel. Quoi. C'est le temps de la décision de ces femmes.
Quant à vous, donc Pierre de La Donchamp, au-delà de ce court-métrage, le sortira Plaire, aimer et courir vite, là, dans 2 jours, de Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, qui sera en compétition officielle ce film au Festival de Cannes cette année. Également Photos de famille de Cécilia Roux avec Camille Cotin et Vanessa Paradis. Puis Les Chatouilles, dont on attend avec impatience la projection qui se déroulera à Cannes cette année, mais également la sortie qui sera en septembre cette fois-ci pour le grand public, un film réalisé par Andréa Bescon et Éric Métayer, avec justement Andréa Bescon, Karine Viard, Clovis Cornillac et vous-même. Alors quel rôle avez-vous dans le film? Vous êtes le méchant?
Ouais.
Ok.
Voilà.
Ça se demandait d'ailleurs qui est le plus méchant entre les parents de la petite fille ou le père.
La mère, ouais,
ou le père, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Et puis prochaine...
Enfin, si on sait quand même que c'est lui le plus méchant.
Le vent tourne de Bettina Oberli, ça c'est un film que vous avez déjà tourné?
Oui, ou j'ai tourné l'été dernier avec Mélanie Thierry et un acteur portugais qui s'appelle Nuno Lopez. Et je sais pas quand est-ce que ça sort encore, je crois que ça sort fin août.
On n'a pas de date en tout cas. Ouais,
voilà,
on a
je
pas
de date. Crois qu'ils prévoient de le sortir fin août, mais c'est pas sûr.
Détail important, il n'y a pas de compétition au milieu de ces 5 courts-métrages qui vont être projetés. Il n'y a pas un jury qui va voter. Il n'y a pas.
Moi, le producteur m'a déjà dit quel film il préférait. Mais,
Est-ce que je peux citer mes comédiens?
Je vous en prie.
Il y a Chloé Astor, Coralie Russier, Paul Delbreuil et Guillaume Potier. Pardon, parce que quand même c'est.
Et pardon surtout à... non, pardon de ne pas l'avoir fait. J'aurais dû le faire.
Et c'est surtout l'occasion, j'imagine, d'être à l'origine d'une révélation pour ces comédiens aussi. Ça doit être assez excitant de se dire qu'en tant que comédien, vous donnez la possibilité à d'autres d'être vus, d'émerger sans doute et de commencer une carrière encore plus riche que celle qu'ils ont entamée.
Ouais, ils ont quand même pas mal commencé, mais c'est vrai que c'est assez prodigieux de les voir travailler, quoi. Moi, je les trouve extraordinaires.
Le roi des démons du vent, réalisé par Clémence Poésie, donc avec Chloé Astor, Coralie Russier, Paul Delbreuil et Guillaume Potier, et de l'autre, Âme Sœur, réalisé par Pierre de La Donchamp avec Sarah Megan Alouche, Adèle Wim, Gauthier Batou et Anthony Sonigo. Des excuses à présenter, Saligo.
Absolument, désolé pour Pierre de La Donchamp qui s'est permis d'oublier qu'il était déjà venu 2 fois dans l'émission. Alors j'ai discuté avec Nagui à la pause et je peux vous annoncer, il n'y aura pas de 4e. Voilà, désolé pour les 900 comédiens qui n'ont pas été sélectionnés par Clémence Poésie et Pierre de La Donchamp. En même temps, comme me le disait très justement Leïla Lapose, vu la faiblesse des films, franchement, vous n'avez rien manqué. Du coup, Pierre, on ne vous réinvitera.
C'est vrai qu'il
n'y
aura pas de 4e, effectivement.
Décidément pas. Et désolé enfin pour la ville de Nancy et le premier agent de Pierre de La Donchamp qui ont été très lâchement abandonnés par Pierre depuis qu'il cartonne. Franchement, Pierre, c'est pas bien. Là, vraiment, 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 vous ne serez jamais réinvité.
En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Merci Clémence Poésie d'être venue. Merci Pierre Deladonchamp. Bon festival de Cannes qui démarre aujourd'hui. Et demain, nous recevrons Charlotte de Turckheim et Amir El Kassem. Bonne journée avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.